Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Arrestation des deux hauts cadres de la Direction générale des impôts DGI. Walens Radja Boudjouma et Delphin Yonda sont poursuivis pour corruption, indique la police judiciaire des parquets dans un communiqué, mais pas de précision sur la date ni le lieu de l'arrestation. Il est essentiel que le gouvernement de la RDC apporte des améliorations concrètes à la vie des Congolaises et des Congolais. Déclaration conjointe de 6 ambassades en RDC dans les États-Unis. Elles se sont exprimées ainsi 72 heures après le récent discours du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, journée mondiale du climat, c'était hier 8 décembre. Cependant, actuellement, le monde entier, ou particulièrement la RDC, observe des perturbations climatiques. Pourquoi et quelles solutions? Réponse avec notre invité, le climatologue Jacques Kasereka, assistant à l'ISP de Beni. Madame, messieurs, bonjour. La police judiciaire des parquets a arrêté deux hauts cadres de la Direction générale des impôts DGI. Il s'agit de Walens Radja Boudjouma et Delphin Yonda. Information contenue dans un communiqué parvenu mercredi 8 décembre, hier donc, à Radio Okapi. Mais le document ne précise pas quand ni où ces cadres ont été arrêtés. La police judiciaire des parquets dit les poursuivre pour corruption. En effet, ils auraient refusé de traiter volontairement et dans les délais légaux le dossier fiscal de Vodacom Congo, dont le directeur financier est sous mandat d'arrêt provisoire au parquet général près la cour d'appel de la Gombe. D'autres précisions avec Jean-Didier Ogobani.
Monsieur Walens Radjabou est chef de bureau contrôle fiscal à la direction des grandes entreprises, tandis que Monsieur Delphin Yonda est lui vérificateur polyvalent. Leur refus de traiter le dossier Vodacom a fait perdre au trésor public plusieurs milliers de dollars de recettes pour les années 2014, 2015 et 2016. Si pour ces trois années, le montant exact n'est pas communiqué, l'inspection générale des finances indique que pour 2017, le manque à gagner est établi à plus ou moins 100 millions de dollars. Outre le dossier Vodacom, M. Walens Radjabou et Delphin Yonda ont aussi falsifié des dossiers de comptabilité pour plusieurs entreprises, dont Kibali Gold Mine KGM et la société d'exploitation de Kipoy SEC. En 2015, par exemple, KGM, qui produit de l'or, a signalé un bénéfice imposable nul à la DGI, alors que la maison mère donne un bénéfice de plus de 358 millions de dollars. Concernant l'entreprise SEC, elle a prétendu n'avoir rien produit et rien vendu en 2015. Alors que les chiffres d'affaires pour cette même année étaient de plus de 57 millions de dollars.
Parlons justement de la corruption. Nous poursuivons avec notre série de reportages sur la lutte contre ce mal en RDC. Le pays dispose d'un arsenal juridique efficace, capable d'endiguer le fléau de corruption qui gangrène le pays et appauvrit le peuple congolais. Mais il se pose un problème d'applicabilité. C'est ce qu'a affirmé le président du réseau des parlementaires contre la corruption, l'APNAC, en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption. Jean-Pierre Passizapamba a même publié un ouvrage qui répertorie tous les instruments juridiques de lutte contre ce fléau en RDC et dénonce que la corruption est érigée en système par la classe politique du pays. Michel Kifindangoy.
Dans son ouvrage, le président de l'APNAC revient sur la richesse des instruments juridiques de lutte contre la corruption en RDC. Passizapamba.
C'est le cas de l'inspection générale des finances, la cour de compte, les codes miniers, les codes pénals. Et donc, nous avons toute une panoplie d'instruments juridiques. La corruption, en principe, ne devait pas créer des problèmes.
Mais il dénonce l'existence de certaines lois injustes qui favorisent la corruption dans le pays.
Il y a des lois qui sont votées sur mesure. Quand vous regardez les budgets, c'est à ceux-là qui touchent gros à qui on achète encore de voitures, qu'on paye les loyers, des primes de représentation. Cette injustice-là constitue déjà un fait de corruption.
Pour les députés Passizapamba, les plus grands corrupteurs, corrompus et violeurs des textes en RDC sont les autorités.
Est-ce que le peuple sait pourquoi les FCC et CACH sont-ils en conflit? Il s'agit bien des actes de corruption. Et c'est pourquoi on se bat autour de la CENI. Parce que ce sont les responsables qui entretiennent la corruption, qui violent le code de la route. En priorité, ce sont les ministres.
Passizapamba plaide donc pour des sanctions exemplaires à tous les niveaux afin de matérialiser la lutte contre combattre la corruption en RDC.
Province de la Tchopo, fin hier à Kisangani de la visite du représentant de l'UNICEF en RDC, avant de regagner Kinshasa, Edouard Begbeder a visité le tribunal pour enfants de Kisangani, une occasion pour le président de cette juridiction de plaider notamment pour la réhabilitation de ses infrastructures afin d'assurer efficacement la protection des enfants en conflit avec la loi, des victimes ainsi que des témoins. Jacques Moukonkole, reportage.
Autrefois fonctionnant presque dans la rue, le tribunal pour enfants de Kisangani est opérationnel depuis environ 5 ans dans ses propres locaux grâce à leur réhabilitation par l'UNICEF. Profitant de la visite du représentant de cet organisme onusien dans ses infrastructures à Kisangani, le président de cette juridiction plaide notamment pour leur aménagement. Fidèle Mouya.
L'aménagement de certains centres d'hébergement transitoires pour les enfants en conflit avec la loi non encore placés sous une mesure définitive de privation de liberté. Les hébergements aussi provisoires pour les enfants victimes, témoins, tout ça qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas de parents à Kisangani.
Le plaidoyer en faveur du renforcement des effectifs des magistrats a été également sollicité auprès du gouvernement par le biais d'Edouard Begbeder. Ce dernier s'est dit prêt à les appuyer.
L'UNICEF serait très heureux de les appuyer pour qu'ils puissent prendre en charge en fonction avec le matériel qui est nécessaire, mais il faut que les salaires soient pris en charge par l'État. Donc on va faire un plaidoyer dans ce sens au niveau central.
Actuellement, plus de 380 dossiers des enfants en conflit avec la loi sont en cours d'instruction au tribunal pour enfants de Kisangani. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, les ambassades du Canada, des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Corée du Sud déclarent leur soutien au processus de réforme visant à garantir les changements que le peuple congolais demande et se sont exprimés ainsi dans une déclaration conjointe rendue publique hier à Kinshasa, soit 72 heures après le discours à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi sur la situation politique actuelle en RDC. Le condensé de la déclaration de ces diplomates avec Denise Lukeso.
En tant que fidèles partenaires du peuple de la RDC, les 6 ambassades disent soutenir notamment les renforcements de la démocratie et des institutions de la République, la lutte contre la corruption et l'impunité, la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que la création d'une prospérité inclusive pour toutes et tous. Il est essentiel que le gouvernement de la RDC apporte des améliorations concrètes à la vie des Congolaises et des Congolais, peut-on lire dans cette déclaration conjointe publiée hier mardi à Kinshasa. Par ailleurs, les corps diplomatiques de ces 6 pays en RDC appellent toutes les parties à travailler de bonne foi pour l'intérêt du peuple et en évitant toute forme de violence en RDC ou insécurité à travers les pays. Cela afin d'assurer le bien-être des citoyennes et citoyens de la RDC, conclut la déclaration conjointe. Les ambassades du Canada, des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse en RDC disent prendre note du discours prononcé par le président Tshisekedi sur la situation politique actuelle en RDC. Goma, Denise Luque sur Radio Okapi.
Et après ce discours du chef de l'État à Lubumbashi, certains partis politiques s'organisent déjà dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. C'est ainsi que l'ASCOD, l'UNAFEC, l'UDPS et la FDCA de Bahati-Lukwebo prennent le devant pour l'installation de cette Union sacrée qui, d'après les ténors de ces partis politiques, est ouverte à tout le monde. Plus de détails avec Jean-Claude Muyambo de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, SCOD. Il a été joint par Jean Gandou.
À notre niveau, nous avons voulu bien s'organiser, puisque Baba et les patriarches, on voulait que ce soit lui le numéro un de l'Union sacrée dans les Katanga. Dans un premier temps, il y a une partie SCOD, il y a aussi l'alternance pour la République en CDAR, là où nous sommes avec les Wanga et une vingtaine de partis politiques. Et il y avait Baba avec son parti, il y avait l'IDPS, et puis il y avait les partis de Bahati Lukwebo. Il y a même des associations qui appellent pour maintenir l'intérêt, mais on leur demande de patienter un peu. Mais je pense d'ici là, nous allons avoir des pistes et des solutions, comment nous allons le faire, même au niveau de nos amis des FCC. Et puis ils sont en train de venir aussi nous consulter. Nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Et aux autres partis politiques, nous on est ouverts, on les attend. Après tout, ce sont nos frères. On ne peut pas faire la politique avec la haine. Nous avons besoin de tout le monde.
Direction le Kasaï oriental. Arrestation ce mercredi du chef de groupement de Benachiloba dans le territoire de Miabi, ainsi que quelques notables par les éléments de la police. Ceci intervient après l'incendie hier des maisons du village de Benakabombo. Le bilan provisoire des affrontements qui ont opposé les habitants de ce village à ceux de Benachiloba fait état de 2 morts, 7 blessés graves et 60 des maisons incendiées dans le village de Benakabombo, affirme l'administrateur de Miabi. Crispin Kabengele affirme que le calme revient peu à peu dans ces 2 villages en conflit foncier. En Ituri, des présumés rebelles ougandais des ADF ont attaqué la nuit dernière le centre commercial de Ndalia, environ 115 km au sud de Bunia, territoire d'Irumu. Selon la société civile locale, c'est hors la loi, ont tué 2 personnes. Cette nouvelle incursion a occasionné un mouvement des populations dans la région. Martial Kiza.
C'est vers 19h heure locale qu'un groupe d'hommes armés identifiés aux rebelles ougandais des ADF a attaqué la position de FRDC à Ndalia dans la chefferie de Wallace Vonkutu. Selon la société civile du territoire d'Irumu, ces rebelles, dont certains portaient des armes à feu et d'autres des armes blanches, ont tout d'abord mis le feu au petit campement de militaires de FRDC avant d'étirer plusieurs coups de balle. C'est dans cette confusion qu'un soldat a été tué alors qu'il voulait répondre à cette attaque, affirme Guiligo Tabo, président de la société civile d'Irumu. Ce dernier indique qu'un autre corps sans vie d'un civil a été également ramassé ce matin au centre de Ndalia. Selon cette structure, ce bilan encore provisoire pourrait s'alourdir car certaines personnes sont encore portées disparues à l'heure qu'il est. Cette attaque, la 1e dans cette entité située sur la route nationale numéro 4 qui mène vers les territoires de Beni, a provoqué un mouvement important des populations. Nous n'avons pas encore eu la réaction des FRDC à Ituri et sur CCG. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, au sud Kivu, la société civile de Bounia Kiri en territoire de Calais dénonce la présence depuis quelques jours des groupes armés Niatura et CNRD dans le parc national de Kahuzi-Biega. Ces miliciens seraient en train d'exploiter des minerais, mais aussi constituent une menace pour les populations des localités riveraines du parc. Pour le seul mois de novembre dernier, la société civile fait état de 5 personnes déjà tuées par ces malfrats. La société civile interpelle ainsi l'armée régulière. Didier Kitumaini de la société civile de Bouniakiri s'exprime au micro de Michel Chirimwami.
Les gens se déplacent pour des activités champêtres et pour subvenir à leurs vies vitaux. Les Niatura, en coalition avec les CNRD, les ont rencontrés et les ont mis sur des arbres et les ont tués et mutilés. On a coupé leurs sacs et voilà ce qui a énervé un peu la population de Bouniakiri. Notre armée, après avoir été alertée, en tout cas il y a eu silence, la population était abandonnée. La FRDC n'est pas venue pour conforter les familles victimes, ni venir sur les lieux pour faire l'état des lieux des civils qui sont tués, des civils congolais, un message d'amertume. Et il fallait que la population elle-même puisse aller au lieu du drame pour aller prendre les corps sans vie et les enterrer. Donc jusqu'à présent, la situation est tellement grave dans ce parti. Et c'est pourquoi nous, on demanderait peut-être au gouvernement provincial de s'inquiéter parce qu'il faut d'abord la sécurité de la population. Nous demanderions au gouvernement congolais de mener des opérations contre les CNRD et les Niatura, qui sont une menace pour la population, mais aussi pour le parc national de Kahuzi-Biega, que nous tous nous devons protéger.
Interrogé, le ministre provincial de l'Intérieur affirme qu'il y a des opérations militaires en cours dans le parc national de Kahuzi-Biega, justement à la poursuite des groupes armés. Lwabanjilwa Singabo affirme avoir appris que l'autorité coutumière a vendu des terres à des éléments des groupes armés étrangers qui s'est fait passer pour des Congolais. Selon lui, un dialogue devrait être envisagé en janvier prochain pour aborder les questions relatives à la sécurité dans la région de Calais. Et puis, arrivé hier à Beni d'une délégation du bureau de la coordination des affaires humanitaire OCHA, conduite par Madame Reina Gelani, directrice du plaidoyer et des opérations. Cette mission va évaluer les besoins en assistance humanitaire dans la région de Beni, en proie aux groupes armés, notamment les EDF. Cette délégation s'est rendue à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Je vous propose d'écouter le directeur national de OCHA et membre de la délégation, Joseph Inganji, parle ici du constat fait sur place au micro de Sekombi Katondolo.
C'était vraiment triste. Il y a beaucoup de déplacés qui habitent dans l'école. Les mamans qui ont déjà été traumatisées par les tueries de leurs enfants, leurs maris et tout le monde. Vraiment, c'est triste. L'assistance qu'ils ont reçue n'est pas vraiment très suffisante. Et je pense que la visite de madame à Oicha, c'est très important, parce que ça va nous aider à faire le plaidoyer pour assurer que on donne cette personne qui est déjà traumatisée l'assistance nécessaire, ce qu'ils ont besoin. Mais je dois vous dire, même si on parle d'assistance, le déplacé n'a pas, ne prend pas l'assistance humanitaire comme prioritaire. Leur priorité, c'est la sécurité, la paix, pour qu'ils retournent chez eux. Et ça, je dois réitérer que chacun de nous, même si on donne l'assistance, chacun de nous doit engager et trouver une solution pour permettre les déplacés de retourner chez eux.
Actualité internationale. Éthiopie, cela fait 10 jours qu'un accord a été signé avec les Nations Unies pour que des travailleurs humanitaires puissent accéder au Tigré qui fait face à de nombreuses pénuries, mais toujours rien ne s'est matérialisé. Dimanche, une équipe de l'ONU a été arrêtée après avoir été la cible des tirs, un geste grave mais pleinement assumé par le gouvernement à Addis Abeba qui refuse de donner un accès total à la région. En effet, après l'incident du week-end passé, le ministre adjoint des Affaires étrangères répète que dans le Tigré, c'est le gouvernement qui décide et l'ONU exécute. Affaire des écoutes en France, 2 ans de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier a requis hier 4 ans de prison, dont 2 avec sursis à l'encontre de l'ancien président français jugé pour corruption et trafic d'influence. Un procès inédit en France, ce à l'issue de près de 5 heures d'un réquisitoire méthodique et aride.
L'invité.
Le 8 décembre, hier, le monde entier a célébré la journée mondiale du climat. Mais quel est l'état actuel du climat au monde et particulièrement en RDC? Ces questions ont été posées au climatologue Jacques Kassereka, assistant à l'Institut supérieur pédagogique ISP de Beni. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Alors, monsieur l'assistant Jacques Kassereka, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le monde a célébré ce 8 décembre, la journée mondiale du climat. Quel état des lieux faites-vous du climat chez nous en RDC?
Merci beaucoup. Depuis plusieurs années déjà, il se constate des changements climatiques. Et ces changements qui sont bien sûr à analyser à longue échelle sont beaucoup plus perceptibles avec les changements des saisons, des perturbations qui interviennent sur les saisons. Si bien que dans les domaines agricoles, il n'est plus assez facile d'indiquer avec précision les dates de semis qui envisagerait bien entendu des dates de récolte et parfois le temps que le semis se fond et la récolte n'intervient pas au moment où le climat offre des facteurs qui permettent que les récoltes se fassent convenablement.
À vrai dire, qu'est-ce qui est vraiment la base de cette perturbation climatique chez nous au pays?
Bien, les perturbations climatiques, en principe, ne sont pas à étudier seulement à l'échelle nationale. Elles sont plus à entrevoir au niveau mondial. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas oublier que la concentration dans l'atmosphère, dans la troposphère, des gaz à effet de serre reste la principale cause. Et si bien que le gaz, à l'occurrence les COD, les chlorofluorocarbures qui se concentrent, entraînent un certain réchauffement, tout en sachant bien entendu que ces réchauffements intervenant sur les cours d'eau font un transfert non ordinaire de l'eau du sol à l'atmosphère et de l'atmosphère au sol. Et cela, en long terme, arrive à créer des perturbations qu'il faut vraiment étudier en long terme.
Et vous pensez comment on peut alors peut-être protéger le climat chez nous, si on parle pour le cas spécifique au Congo, par quel mécanisme on peut protéger le climat?
Merci beaucoup. Bon, d'ailleurs, le Congo, on dirait que nous avons jusque-là la chance d'avoir encore beaucoup d'espaces verts qui essayent d'aider le climat au niveau même mondial, avec nos forêts, avec nos tourbes. Et à un certain niveau, il y a encore quelque chose qui se passe au niveau national et de manière naturelle. Mais avec l'extension démographique, il se fait bien entendu que nous faisons des conquêtes de nouvelles terres. Nos anciennes forêts sont de plus en plus conquises par l'homme, bien entendu pour des raisons vitales qui cherchent à produire. Malheureusement, avec des techniques inappropriées qui font qu'il épuise les sols à chaque décennie et entrevoir de nouvelles conquêtes des terres. Alors cela est un grand problème, si bien qu'il faut qu'au niveau local, nous essayons de renforcer les capacités des pratiquants de l'activité agricole le respect des techniques culturales et au besoin entrevoir ce que nous appelons l'agroforesterie, c'est-à-dire le temps que nous sommes en train de faire le champ, nous installons également des espèces ligneuses qui séquestrent les gaz qui, bien entendu, sont à l'origine de toutes ces perturbations. Alors, ça demande, bien entendu, une certaine politique. Politique parce que arriver à maîtriser l'agroforesterie demande aussi que les scientifiques du domaine agricole mettent en place des variétés de cultures vivrières qui s'adaptent plus ou moins à un certain ombrage. Ce qui fait qu'il y a du travail en amont qui doit être fait pour que nous arrivions à réaliser cette agroforesterie dans son vrai sens du terme, sans que les populations qui se verraient obligées d'installer des arbres ne trouvent pas que cela empiète à leur production.
Monsieur l'assistant Jacques, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.
Jacques Kassereka, climatologue, répondait aux questions de Marc Maro Fimbo. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, supervision de Ben Kabamba et Martin Sebujangwe, à la mise en onde Willem Lungamba et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci.